invités à ce premier café littéraire. On va commencer là immédiatement puisque tout le monde est là. Et vous, d'abord, c'est le principal. Bonjour et bonne journée encore aux Imaginales aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui, écrire un premier roman et trouver son éditeur. Avec moi, il y a des gens qui ont écrit leur premier roman et qui ont trouvé leur premier éditeur, donc ça tombe bien. Alors, l'extrême droite, si j'ose dire, Georgia Caldera, qui a écrit Les Larmes Rouges, c'est marqué là, premier tome. J'ai lu ?
Oui,
j'ai lu. Et Hors de portée, qui est paru cette année, j'ai lu aussi. Camille Brissot, ici à ma droite. Deux premiers romans chez Rajo Jeunesse, il y a déjà quelques années, 2005-2008. Et puis, cette année, chez La Talente, Dresseur de fantômes. Alors, on passe, Georgia Caldera, c'est plutôt un univers fantastique, un peu noir, cauchemardeux.
Tout à fait.
Tandis que Camille Brissot, c'est un mélange de fantasy, de fantastique, puisqu'il y a des fantômes, un peu de steampunk aussi dans le décor. Alors, Cindy Van Wilder, ben vous la connaissez puisque vous étiez là hier soir et qu'elle a obtenu avec son premier roman Les Outrepasseurs le prix Imaginal de la jeunesse 2014. Elle avait déjà écrit avant Au service des insectes, une nouvelle chez, je ne sais plus me relire, Édition Voyelle. Alors, et le seul homme, à part moi évidemment, mais le seul auteur de ce débat, Stéphane Plateau, qui vient de publier Manèche au mouton électrique, qui est là dans un monde de fantasy pur et dur, si j'ose dire. Alors, comment ça s'est passé pour chacun? Moi, j'aimerais bien qu'on commence simplement par un tour de table. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile de trouver un éditeur pour faire publier son premier roman, Georgia?
Alors, facile, non, pas exactement. Difficile, on ne peut pas dire ça non plus. Mais enfin, Les Larmes Rouges, j'ai eu un parcours un peu spécial parce que j'ai terminé de l'écrire en 2010. Je me suis d'abord adressée à de petites maisons d'édition en envoyant mon manuscrit par email. Et j'ai tout de suite été acceptée aux éditions Cauchemar, qui aujourd'hui ont fait faillite. Voilà, donc la parution devait se faire une année plus tard. Et entre-temps, donc, ils ont fait faillite. J'ai un petit peu galéré pour récupérer mes droits. Après, donc, les éditions du Chat Noir se sont montées. Je connaissais bien donc, Cécile Guillot, qui était une amie. Donc, elle aimait beaucoup ce que je faisais. Donc, on a tout de suite fait paraître Les Larmes Rouges. Par la suite, j'ai obtenu le prix Merlin et c'est suite à ça que J'ai lu m'a contacté et que Les Larmes Rouges sont donc reparues chez J'ai lu. Voilà, donc un parcours un peu spécial, mais voilà.
Camille, le fait d'avoir déjà écrit de romans jeunesse chez Rajo, ça a aidé pour publier Dresseur de fantômes chez La Talente?
Évidemment, on m'entend là, ouais, c'est bon. Oui, évidemment, ça a aidé parce que j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Le plus compliqué, c'est le premier. Une fois qu'on a un peu mis la main dans l'engrenage, c'est plus puissant. On a quelques contacts, on sait un peu comment ça se passe. Donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que le premier, c'est souvent une histoire de patience. Ça peut prendre du temps. Moi, ça remonte un petit peu à quelques années, mais j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. En fait, c'est que j'ai eu un mentor assez cool et très très précieux. Il s'agissait de Pierre Bottero. Donc j'imagine que vous le connaissez, qui m'a appris vraiment à me relire, etc., avec un œil d'éditeur, et qui m'a fait gagner quelques années là-dessus. Et je ressens ça toujours aujourd'hui. Donc forcément, ça a été... c'est pas simple, mais voilà.
Cindy ?
Moi, ça a été la succession, en fait, d'opportunités et de hasards heureux, si je puis dire. Puisqu'en fait, quand j'ai commencé à soumettre mon manuscrit, je connaissais déjà Gulfstream, notamment par la collection Courant Noir, qui est une série de polars historiques. Mais je croyais donc que la cible des outrepasseurs, donc le public visé, ne pouvait pas correspondre au public de Gulfstream. Et en fait, c'est une amie qui n'est pas là pour le moment, je ne pense pas, non. Mais... Voilà. Une amie en fait qui les a contactés pour faire un guide des éditeurs de l'imaginaire qui est publié par l'association Tremplin de l'imaginaire dont je suis membre également et qui m'a dit écoute ils sont en train de chercher donc de vouloir se développer vers un nouveau public d'adolescents plus âgés. Donc ce qu'on peut appeler maintenant le young adult. Je dis bon ben voilà qui ne tente rien à rien donc je leur ai envoyé. Et 8 mois plus tard, j'avais mon oui. Voilà. Stéphane ?
Alors moi, c'était à la fois long et court. Long parce que j'ai pris pas mal de temps pour retravailler mon livre avec une armée de... J'ai pas pu le sauver, je suis désolé.
Tout fout le camp.
Je m'en vous. Une armée de relecteurs parmi les amis et des gens extérieurs qui pouvaient se montrer parfois très critiques et c'était très salutaire, y compris à la fin du processus, la relecture par un auteur qui est à Jordal, qui est un peu devenu une sorte de parrain. Et puis ben, du coup, quand il est arrivé, quand je me suis enfin décidé à l'envoyer chez un éditeur, il était, je crois qu'il était très prêt. Et donc ça a pris, mon premier choix était Les Moutons électriques et ça a pris 48 heures. J'ai envoyé le manuscrit, j'ai eu un accusé de réception une heure après parce qu'il en avait un petit peu entendu parler. Et puis c'était signé très très vite. Donc, mais c'était un peu particulier parce que peut-être que j'aurais pu gagner un an ou deux en l'envoyant plus tôt, en prenant peut-être un peu plus le risque d'avoir des choses qui déplaisent et en ayant un processus éditorial plus long parce que là, il ne m'a quasiment plus rien fait changer.
Mais garde la parole, est-ce que voilà, tu décides de faire un roman, est-ce qu'au départ, avant de commencer à mettre ça sur le papier, tu penses déjà à éditeur? Est-ce que c'est déjà dans la ligne droite, dans l'horizon, il faudra que je sois publié? Ou bien est-ce que tu travailles au départ pour toi?
Alors, au départ, je crois qu'on écrit souvent parce qu'on ne sait pas faire autrement et qu'on a envie de le faire et qu'on ne peut pas s'en empêcher. Moi, ça fait presque partie de mon rituel pour terminer bien la journée, pour m'endormir serein, d'avoir écrit au moins un peu dans ma journée. Sinon, je suis capable de rentrer de guindaille et encore d'écrire un petit peu. Après, ce n'est pas sûr que je garde ce que j'ai écrit ce soir-là, mais... Parfois, oui. Et donc, oui, c'est un besoin vital, c'est l'envie d'écrire. Donc, moi, j'ai toujours eu envie d'être édité. Je crois que j'ai eu envie depuis l'âge de 7 ou 8 ans, dès que j'ai su lire et écrire. Enfin, dès que j'ai su lire, j'ai su écrire. Et donc, j'avais toujours cet objectif-là en tête, mais en même temps, je n'avais pas envie de me mettre la pression et de me dire, je vais peut-être travailler des heures et des heures pour rien. Donc, je gardais en tête que je le faisais avant tout pour moi, pour mon plaisir, et que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais j'étais déjà attentif dans l'écriture à ce que ça soit éditable. Et donc, j'ai très vite, dans le processus, réfléchi aussi à des choses comme est-ce que je suis prêt à accepter qu'un éditeur me fasse retravailler, repenser mon bouquin, supprimer 40 pages et ce genre de choses. Et donc, me préparer à accepter ce genre de choses assez tôt dans le processus d'écriture. Oui.
Georgia, la même question.
Alors, quand j'ai commencé l'écriture, c'était plus un besoin et un défi pour moi-même de savoir si je pouvais aller au bout de mon histoire et terminer ce projet. Parce que quand j'étais jeune, j'ai écrit pas mal de petits projets, mais qui n'ont pas vraiment connu de fin. Et l'éditeur, c'était le but ultime. C'était... voilà, c'était le défi, mais j'ai pas écrit en pensant éditeur, ni même en pensant à une cible particulière. J'avais vraiment envie de raconter cette histoire-là, dans ces mots-là, comme ça. Donc, voilà.
Cindy, s'il n'y avait pas eu Gulfstream, tu aurais continué, tu aurais persévéré à essayer d'avoir un éditeur et continuer à écrire de toute façon?
Oui, je pense que de toute manière, comme le dit si bien Stéphane, c'est en nous, c'est un besoin, c'est une envie d'écrire. Et je pense qu'à un moment donné, l'envie d'écrire pour soi, l'envie de se poser aussi un défi pour voir si on va arriver jusqu'au bout, se concilie avec aussi l'envie de partager son histoire, de pouvoir la faire vivre aux yeux d'autres lecteurs, que soi-même ou des gens auxquels... On leur soumet leur histoire en leur disant, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. et tout. Voilà, et je pense que à ce moment-là, l'envie, justement, de trouver un éditeur, de voir si notre récit peut être quelque part cautionné par des yeux professionnels, est extrêmement important. Donc, je comprends tout à fait qu'on puisse se lancer dans des démarches qui durent plus ou moins longtemps selon la chance et tout un réseau d'autres facteurs pour voir si un éditeur peut nous apporter effectivement cette garantie et nous offrir une opportunité donc de faire partager cette histoire avec d'autres lecteurs.
Camille, le premier roman qui est paru était en 2005. Tu devais être vachement jeune à l'époque.
Bah, j'avais 17 ans. Ouais, c'était jeune, mais j'ai écrit depuis toujours. Et très vite, écrire pour moi-même, ça ne m'a plus du tout intéressée. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir des lecteurs, d'avoir des échanges derrière, qui soient des retours qui soient positifs ou négatifs, parce que finalement, les critiques, quand elles sont bien tournées, voilà, on en tire vraiment quelque chose, et c'est souvent beaucoup plus utile que les éloges. Et moi, j'avais besoin de ça, donc j'ai voulu aller très vite. Je me suis lancée un défi, et je me suis dit que je veux absolument publier mon premier roman avant mes 18 ans. C'était complètement idiot comme truc, mais moi c'est ce qui m'a permis de me motiver, d'y aller un petit peu à fond, de me dire voilà, il faut écrire là au lieu d'aller jouer à la Game Boy dans la cour. Et du coup, alors j'ai écrit un premier roman qui était une espèce d'horreur de 400 pages. Voilà, je pensais être le nouveau Tolkien, c'était pas le cas. Hein. Je l'ai envoyé à ce moment-là à tous les grands éditeurs, évidemment, après Gallimard, etc., tous les grands, en pensant qu'ils m'attendaient les portes ouvertes. C'était pas non plus le cas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte très vite que c'était compliqué, quand on est seul face à son texte, d'en déterminer finalement la valeur, surtout à mon âge, j'étais un peu jeune, je pense que je me rendais pas exactement compte de ce que je faisais. Et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que en fait, je me suis cherché un mentor, un peu comme toi du coup. Et en fait, à ce moment-là, je lisais un bouquin qui s'appelait La quête des Willan, et je me suis dit, le mec qui écrit ça, il a l'air quand même assez sympa. Donc je vais lui écrire une lettre. Là non plus, je ne doutais de rien à ce moment-là. J'ai ouvert l'annuaire, j'ai cherché Pierre Bottero, il était dedans, gros coup de chance. Je lui ai envoyé une petite lettre, et c'est vraiment là qu'il a été adorable, il a accepté de me répondre, etc. Il m'a montré exactement comment on fait, comment on relie en fait son texte d'un œil un peu plus avisé, surtout plus neutre. Comment on apprend à s'en détacher, en fait, et du coup, en voir les défauts, parce que c'est vrai que quand on travaille sur quelque chose depuis des mois et des mois, on voit plus rien, on est vraiment absolument plus objectif. Et les copains autour et la famille, c'est pas le meilleur avis. Hein. Moi, mes parents, je leur faisais lire, ils adoraient tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu besoin de chercher cet avis-là. Et ça m'a vraiment permis, je pense, de gagner au moins 10 à 15 ans.
Georgia, quand on envoie et que c'est accepté un roman à un grand éditeur, bon, il y a un travail entre l'éditeur et l'écrivain. Est-ce que l'écrivain est amené à accepter un peu toutes les remarques, toutes les critiques, à refaire des trucs, à recommencer à écrire, à changer peut-être la structure? Comment ça se passe concrètement?
Alors, moi, j'ai eu une éditrice très sympa avec laquelle je peux beaucoup discuter. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on en parle et on fait des compromis. Donc, la première version des Larmes Rouges, on y a très très peu touché. Donc, dans la version qui est sortie aux éditions du Chat Noir, il y avait beaucoup beaucoup trop de points de suspension, donc on a modifié ça. J'étais assez d'accord avec ça. Après, c'était une histoire de 2-3 mots par chapitre. Voilà. Pour le tome 2, on a un petit peu retravaillé aussi certaines choses, mais c'est pareil. À chaque fois, on a beaucoup discuté ces points-là. Et non, j'ai pas eu à faire de gros compromis, en fait.
Cindy, si on retravaille avec l'éditeur, est-ce que pour l'écrivain, c'est une évidence de corriger, ou est-ce que c'est un déchirement?
En fait, je ne vais pas vraiment parler du travail avec l'éditeur. Je vais d'abord parler d'un travail qui s'est opéré avant, puisque Stéphane et Camille ont tous deux parlé d'un mentor en particulier. Moi, j'ai eu l'extrême chance de tomber sur un groupe d'écrivains, un groupe de fous furieux animaux. Qui aime l'imaginaire autant que moi, sinon plus, et qui s'appelle Cossyclic, qui est un forum sur Internet. Le principe est simple. Si vous voulez être aidé, vous aidez à votre tour. Donc, si vous voulez qu'on lise votre texte, vous lisez un autre texte. Je vais pas vous la faire compliquer. Disons que c'est le principe de l'entraide et surtout de la fraternité entre auteurs. Donc en fait, j'étais déjà habituée à ce cycle de relecture, de commentaires, de critiques, qui sont pas toujours faciles à prendre en compte au premier abord, mais qui aident énormément par la suite. Surtout en fait, quand on prend un petit peu de recul, quand même, et qu'on se dit, oui, en fait, ils n'ont pas quand même pas tout à fait tort. Donc, quand le manuscrit est arrivé chez l'éditeur et que Gulfstream m'a dit, OK, on est partant, personnellement, les corrections, disons que j'avais quand même un petit peu l'habitude. Donc, le déchirement, peut-être, oui, mais surtout, c'est une aide incroyable. Voilà.
Et Stéphane, Ayurdal avait déjà sans doute donné son avis sur beaucoup de choses dans ton roman. Est-ce qu'après, il y a encore eu de nouvelles corrections par André-François Ruau au bouton électrique, ou bien est-ce que c'est paru comme ça, et comment ça s'est passé pour toi?
Alors, Ayurdal a fait surtout changer une chose, c'est pratiquement la seule chose qui m'a fait changer, c'était mon emploi des temps. Je vais quand même le mentionner parce que c'est pas anodin. Dans Manèche, il y a des passages où j'alterne librement l'usage du présent et l'usage d'un temps du passé. Je le fais parce que je trouve que le présent est souvent plus direct, plus atmosphérique et meilleur pour l'action, mais qu'à certains moments, par exemple quand on veut accélérer le déroulement du temps, raconter un voyage de 3 jours en 2 paragraphes, le passé simple est vraiment impeccable, le présent est un petit peu plus dur à manier. C'est quelque chose qui se fait chez pas mal de grands écrivains qu'on ne peut pas considérer comme des écrivains olé olé, par exemple Marguerite Yourcenar, qui n'est pas forcément une grande novatrice sous la forme, c'est quelque chose qui n'est pas facilement accepté en fantasy, et je pense que ça l'est parce qu'on est habitué à lire des traductions anglo-saxonnes et qu'en anglais, le présent narratif ne s'utilise pas, donc on n'est pas habitué à ça. Et donc, c'est Sarah, la femme d'Ayurdal, qui était d'abord tombée sur le manuscrit, elle avait calé sur cet aspect-là, et par prudence, on a remis tout le premier niveau de l'intrigue au présent, c'était le principal, pratiquement le seul, à part un ou deux détails, retravail qui a été fait par Ayurdal. Pour le reste, c'était déjà arrivé assez mûr dans ses mains. Et donc, le retravail par la suite au niveau de l'éditeur, d'André-François Ruau, c'est borné à une phrase, en fait.
Sur 400 pages
Oui, mais il faut bien dire qu'avant, il y a eu un long processus avec des relecteurs, qui sont des amis qui sont vraiment très, très précieux. Si vous avez des relecteurs, je crois que ça, c'est vraiment essentiel, traitez-les bien. Parce que c'est vraiment super précieux. Quand je dis traiter les biens, ça peut être dur à encaisser, ça peut être dur à comprendre. Et dans un premier temps, on peut se dire, mais c'est n'importe quoi. On peut avoir tendance à se braquer. Et souvent, il y a un processus qui se fait après. Et comme dit Cindy, on finit par se dire, mais oui, en fait, ils ont raison, par changer son regard. Et donc, c'est vraiment quelque chose de précieux d'avoir des relecteurs honnêtes et cash. Moi, j'ai un ami, par exemple, il écrivait dans la marge, dans les notes de Word. Quand ça allait bien, il disait ça c'est génial, je suis complètement dedans, etc. Puis parfois c'était un peu trop long et j'avais des commentaires du genre bon, ça me saoule là, Steph, abrège là, quoi encore. Mais c'était génial, il m'a fait gagner du temps aussi, quoi. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord, même si parfois un rédacteur peut mal formuler ce qui ne va pas parce qu'il n'arrive pas, il sent que ça ne va pas, mais il n'arrive pas à voir précisément ce qui ne va pas ou il le formule de façon peut-être erronée. Il y a peut-être quand même quelque chose à creuser. À un moment, il faudra comprendre ce qui l'a gêné et en tout cas accueillir avec respect et reconnaissance les avis.
Et Camille, à la Talente, dresseur de fantômes a été accepté tel quel?
Non, pas tel quel. Moi, j'ai eu un peu plus qu'une phrase à corriger. Alors, par contre, il y avait eu un peu de travail aussi dessus. Parce que quand je l'ai écrit, je l'ai proposé à mon éditeur original, chez Rajo. Et c'était pas du tout dans leur ligne, dans leur ligne éditoriale. Et à ce moment-là, en fait, il est un peu passé de main en main, d'amis en éditeur, etc. Et chacun m'a un peu donné sa petite pierre, de quoi construire un truc un peu plus solide. J'ai notamment eu pas mal d'aide de Christophe Lambert, pas l'acteur, hein, l'écrivain, qui est un grand spécialiste de comment construire une histoire trépidante, etc. Moi, c'est un peu ce qui pêche. Je suis plus intéressée par les personnages, par les décors, etc. Et il m'a aidé à rendre ça efficace. Donc c'est vrai qu'il y avait eu quand même pas mal de boulot d'aller-retour là-dessus, je dirais 2 ou 3, avant que ça arrive entre les mains de la Talente. Et du coup, ça a été assez rapide. Franchement, j'avais l'habitude de faire plus de corrections, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est même le moment que je préfère la correction, parce que ça veut dire qu'on approche vraiment du but. Et en plus, c'est simple, c'est qu'on est guidé par l'éditeur, donc ça devient vraiment facile. Moi, comme je suis un peu flemmarde dans l'âme, il y a écrit à côté change chat, je fais, voilà.
Mais en fait, il y a eu quand même une décision à prendre, c'est que tu avais cru que ce roman allait paraître en édition jeunesse et il n'est pas paru en édition jeunesse.
Non, il n'est pas paru en édition jeunesse, mais là, vraiment, c'est quelque chose qui, moi, m'échappe complètement. Je pense que vous pouvez dire la même chose, c'est que quand on écrit, on ne se dit pas, super, je vais écrire pour un 11-12 ans, là. C'est vraiment ça, c'est l'éditeur qui derrière dit, eh ben non, là c'est des thèmes qui sont un peu plus adultes ou un peu plus etc. Donc moi ça m'a vraiment étonnée, mais j'étais contente, ça m'a permis de varier un peu mes bouquins.
Georgie, elle n'écrit pas pour les 11-12 ans, je suppose ?
Pas exactement, non, mais enfin, j'ai quelques lectrices, surtout des femmes assez, enfin des filles assez, des jeunes filles assez jeunes, qui ont 14-15 ans. Mais avant ça, non, c'est un petit peu sanglant quand même, donc voilà.
Non, mais on a vu hier et sans doute encore aujourd'hui que la file devant tes séances de dédicace, c'était quand même des jeunes femmes de 17-18 ans.
Oui, 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 c'est vrai.
Et maintenant que c'est publié, la voie est toute tracée, c'est facile maintenant, Georgia ?
C'est plus simple, parce que j'ai... Donc, tout de suite proposer aussi mon projet, qui à l'époque était à l'état de projet, de romance contemporaine à mon éditrice. Comme c'est aussi quelque chose qu'ils font beaucoup chez J'ai lu, ça a été rapidement accepté. J'ai aussi une autre série qui va paraître en septembre prochain, qui s'appelle Victorian Fantasy, qui est complètement différente parce que ça se passe dans un univers alternatif steampunk. Et donc ça va paraître aussi aux éditions J'ai lu. Voilà, donc maintenant c'est vrai que c'est plus simple.
Et pour Stéphane, c'est aussi plus simple maintenant. Manèche est sorti, il va sans doute remporter quelques prix, non ? Et puis quoi là ? Comment est-ce qu'on continue ?
Alors maintenant c'est là que les romans vont s'empoigner parce que je suis pas dans la merde parce que j'ai choisi de commencer par une trilogie. Et c'est pas forcément un si bon choix que ça parce que Manèche, c'est un gros bouquin. J'ai mis un certain nombre d'années à le faire parce que, justement, je suis un peu perfectionniste. J'ai eu tout ce processus de relecture. J'ai eu pas mal de moments de recul pour tailler dans le là. Alors là, j'ai un délai beaucoup plus court. Il faut que j'écrive ce tome 2. Il faut que j'essaie de préparer mon éditeur au fait qu'il risque d'être un peu plus gros. Ça ne va pas lui faire plaisir parce que ça coûte plus cher. Et surtout, je vais devoir aller plus vite et moi, me tromper. Je veux dire que je vais devoir... assez vite pouvoir corriger quand je vois que c'est trop long, qu'il faut que je prenne un raccourci narratif, etc. Et donc, mon éditeur qui m'a fait changer une phrase, je suis allé le trouver, je lui ai dit, écoute, je vais avoir besoin de beaucoup plus de travail d'editing. Il va falloir que tu, si tu es d'accord, que tu me relises plus tôt, que tu interviennes plus tôt pour me faire gagner du temps. Heureusement, Ayerdal est prêt à m'aider aussi. Là, je pense qu'il aura plus à changer aussi parce que je vais avoir moins le temps de prendre du recul. Je vais devoir aller plus vite. Et comme c'est une trilogie, j'ai une pression. Des gens qui sont venus hier acheter mon livre dans la file, eh bien, il y en a énormément qui m'ont dit, mais ça va être, c'est un seul tome ou c'est une trilogie, on va devoir attendre. Et le deuxième, il sort quand ? C'était un petit peu délicat parce qu'il y a des gens qui auraient pu me dire, si vous ne me promettez pas que ça va sortir vite, moi je ne la commence pas, votre trilogie. Donc ça met une sacrée pression, la trilogie, et ce n'est pas forcément une bonne idée de commencer par ça, surtout que éditorialement, c'est autant en parler parce que je crois que beaucoup de gens aiment faire des trilogies aussi, éditorialement, il y a de moins en moins d'éditeurs qui vont être prêts à se lancer dans cette aventure-là. Hein, on découvre aussi que les trilogies, les tomes 2 se vendent moins que les tomes 1, etc., etc., qu'il y a une diminution progressive des ventes. C'est aussi peut-être parfois quand un tome 2 sort, on rachète d'abord le tome 1 parce que les gens commencent à entendre parler de la série, mais c'est quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus risqué à mettre en place, surtout pour un petit éditeur du gabarit de ceux qui sont comme Nemos ou les Moutons Électriques, quoi.
Cindy aussi a commencé par une trilogie et les parutions de tome 2 et 3 sont déjà prévues.
Exactement. Mais un petit peu à la différence de Stéphane, en fait, pour moi, en fait, la trilogie est écrite. Le tome 2, je peux le dire, est déjà à l'impression. Et le tome 3, ben, je vais bientôt le rendre à mon éditrice qui doit attendre impatiemment quand même que je lui envoie en pièce jointe. Ce serait bien. Oui, effectivement, sur une note plus sérieuse, effectivement, ça met la pression, mais... D'un autre côté, quelque part, l'histoire le demande. J'aurais pu effectivement couper là au premier tome, mais je pense qu'il y a effectivement une grande attente pour voir comment l'histoire va pouvoir se dérouler et de quelle manière les personnages vont pouvoir évoluer. Je comprends totalement aussi le propos de Stéphane sur effectivement bon, l'attente pour les lecteurs, c'est vrai. En même temps, je pense que c'est un format auquel les lecteurs de l'imaginaire sont sensibles et sont aussi habitués quelque part. Et Enfin, en tant que grande lectrice moi-même, je suis confrontée aussi à pas mal de trilogies et même à pas mal de sagas, puisqu'en plus, j'ai le bonheur ou la malchance d'être fan du Trône de Fer. Ceux dans l'assistance qui connaissent comprendront mon dilemme, n'est-ce pas ? Puisqu'elle n'est toujours pas finie et qu'on attend impatiemment le prochain tome. Mais en fait, c'est aussi une occasion de pouvoir relire aussi les tomes au fur et à mesure que les autres sortent. Donc quelque part, c'est toujours une redécouverte de l'histoire. Pour moi, je le prends ainsi.
Camille, le dresseur de fantômes, Théophras et Valentine vont-ils revenir dans un deuxième tome ? C'est pas prévu là comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'attente particulière, mais ce sont des beaux héros.
Ouais, et je les aime bien. En fait, j'ai toujours été très admirative de ces auteurs qui construisent un univers compliqué et vaste, etc. Et j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, jusqu'au jour où j'ai écrit ce bouquin. Et en fait, cet univers-là, il est un peu baroque, un peu décousu. Finalement, il me ressemble pas mal. Et en fait, j'y suis bien. Et c'est vrai que du coup, j'envisage très sérieusement l'idée de d'écrire une suite, alors qui ne se passerait peut-être pas avec ces héros-là,
dans le même univers,
ouais, parce que finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pistes que j'avais entamées et que j'avais laissées ouvertes pour la suite, donc peut-être qu'inconsciemment ça se travaille déjà, mais j'aimerais bien y revenir.
Georgiane, n'as-tu pas dit que tu allais commencer aussi une saga en quelques tomes ?
Oui, alors déjà, Les Larmes Rouges, c'est une trilogie aussi. Le tome 2 est paru dernièrement en mars et le tome 3 paraîtra en mars 2015. Il est pratiquement écrit. Et puis Victorian Fantasy, c'est aussi une série qui se comptera à peu près en 5 tomes. Voilà. Et la romance, c'est aussi une série qui se comptera en 3 tomes. Le premier, c'est donc hors de portée. Le deuxième sera hors de question. Et le troisième, hors de propos. Et ils pourront se lire indépendamment parce que ce seront des personnages qu'on aura déjà croisés dans le premier tome. Mais disons qu'on mettra l'accent sur différents personnages à chaque tome. Voilà.
Est-ce que c'est parce que le monde est tellement riche, le monde que vous avez inventé, vous imaginez, est tellement riche qu'on a envie d'y revenir ? Ou c'est parce que vous ne voulez pas quitter les personnages ? Pourquoi est-ce que vous envisagez immédiatement comme ça d'avoir autant de tomes ?
Alors, pour Les Larmes Rouges, je l'ai imaginé immédiatement en trilogie parce que j'avais 3 axes majeurs que je voulais développer. Et puis que j'aime beaucoup, enfin, mon univers me plaît, qu'il est suffisamment riche pour être exploité sur 3 tomes. Après, Victorian Fantasy, c'est pareil. Surtout, c'est de la fantasy, donc ça permet vraiment beaucoup de choses. Et puis, la romance contemporaine, alors c'est pas l'univers qui est riche, puisque bon, c'est l'univers réaliste, présent, voilà. En fait, au début, c'était fait pour être un one-shot. Et je m'étais un peu lancé un défi en faisant une romance parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas vraiment l'habitude. J'aime beaucoup le fantastique, c'est mon truc. Mais en fait, l'exercice m'a tellement plu que j'ai eu envie de remettre ça et que je me suis dit, ah ben oui, ce personnage-là qui est l'ami de l'héroïne, je peux peut-être en faire quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à penser à toute une histoire et voilà, c'est comme ça que c'est venu.
Cindy, le monde des outrepasseurs, après le troisième tome, ça sera fini ? Ou bien tu auras envie de le reprendre dans une séquelle ou une préquelle, comme on dit en anglo-saxon ?
Ça, je pense que ça dépendra en grande partie d'abord de mon éditeur et puis de voir si les lecteurs sont intéressés aussi. Mais en tout cas, moi, je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir explorer ce monde, effectivement. À pouvoir aussi quelque part aller au bout de mon imaginaire et pas me dire bon ben voilà l'histoire s'arrête ici, alors qu'en fait j'avais encore plein de pistes pour pouvoir explorer non seulement l'univers mais aussi développer les personnages. C'est vraiment ce qui m'a poussé effectivement dans une écriture à plusieurs tomes. Je le dis souvent, je n'ai pas écrit ce premier tome dans l'optique, comme le disait Camille, on commence pas une histoire en se disant « voilà, je vais écrire pour un public déterminé ». Non. Moi, j'ai écrit l'histoire que je voulais vraiment écrire. Et j'ai eu énormément de chance de pouvoir compter sur le regard extérieur, comme je l'ai déjà dit, de relecteur. Pour la suite, on va voir ce qui va en advenir. Je le dis aussi souvent, c'est que quand un roman est publié, ben, il nous appartient plus totalement, il appartient aussi au regard des lecteurs. Et ça aussi, c'est un grand plaisir que de pouvoir partager cette interaction.
Stéphane, lui, il est complètement dans le monde de Manèche encore, puisqu'il doit encore écrire, terminer le deuxième et le troisième. Mais est-ce que déjà, aujourd'hui, il y a des idées d'autres mondes, d'autres univers que tu as envie de développer ?
Alors, moi, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans le même univers, dans l'univers des Sentiers des Astres. J'ai commencé par développer un univers très riche en connectant des éléments inspirés de différentes mythologies, en développant des géopolitiques, en développant des phénomènes de colonisation et vraiment beaucoup de choses à raconter sur tous les plans. Pour tout dire, ce que j'aurais dû écrire d'abord, c'était la préquelle, c'est ce qui se passait avant Manèche. J'avais plus de 100 pages de scénario. Et puis, je bloquais sur certaines choses. Et puis, tout d'un coup, est passée l'histoire de Manèche qui permettait d'aborder quelque part les grands événements politiques par la bande, à la marge. Et je suis parti là-dessus. Et je ne me suis plus arrêté. Donc, ça veut dire qu'après la trilogie, j'ai peut-être encore des choses à raconter sur ce qui se passe avant et après. Mais c'est assez lointain encore dans le processus parce que je ne suis qu'à la moitié de l'écriture du tome 2. Donc, je ne vais pas trop me mettre la pression avec ça non plus.
Pas trop de voies de traverse pour le moment.
Oui, mais j'ai des envies et des choses dans les cartons ailleurs. J'ai un roman historique avec un petit côté fantastique dans mes cartons. J'ai un projet en SF, j'ai des projets de nouvelles plus expérimentales. Mais pour l'instant, je vais devoir, rester très concentré.
C'est une discipline.
C'est une grande... Oui, c'est vraiment... Ça demande beaucoup de discipline parce que quand on a un boulot à côté, parce que vous vous en doutez, on ne sort pas son premier roman, on n'est pas une pancarte sur sa porte. Je suis écrivain, on ne va pas prendre son statut d'indépendant. Il faut manger, voilà. En plus, en vivre, c'est le rêve, mais quand on y réfléchit, quand on voit comment ça se passe, on n'est pas si certain que ce soit le bon choix à faire parce que... D'une part, on voit les écrivains qui en vivent, il y en a quand même beaucoup qui, comme dit Olivier Perru, qui mangent des nouilles au beurre et qui aimeraient quand même bien parfois pouvoir mettre du fromage avec. Et en plus, il y a une pression sur l'écriture qui fait qu'on est moins libre parce qu'il faut produire et peut-être parfois éventuellement au détriment de la qualité de certains ouvrages que quand on a un boulot à côté. À la fois, ça enlève un peu de pression par rapport à la production et à la fois, il faut arriver à gérer une double activité. Ça demande vraiment de s'organiser. Moi, j'ai un boulot à temps plein. Enfin, j'ai réussi à négocier avec un cinquième. J'ai 3h30 de trajet quotidien, de navette, heureusement, en train. Et j'ai exploité ce temps en écrivant dans le train. C'est devenu des heures très importantes pour l'écriture. J'ai mes petits rituels. Je parlais du soir avant de dormir, etc., qui me permettent d'avancer réellement au rythme de 5-10 pages la semaine. Mais il faut vraiment arriver à ça. Je parlais hier avec une auteure qui, elle, n'a pas d'autre activité, qui en plus est assez jeune, qui n'a pas d'enfant à charge, pas de responsabilité financière lourde, eh bien, qui disait « moi, j'écris le jour où ça me plaît, j'écris une journée complète, j'ai fait mes 10 pages et puis je ne fous plus rien de la semaine, je vais faire la fête. Elle ne comprend pas comment j'arrive à discipliner au point pour me dire « aujourd'hui, j'écris et j'avance à tout prix quand j'ai ne serait-ce qu'une petite heure devant moi. »
Camille, comment est-ce que ça se passe entre l'écriture et le vrai, je mets ça entre guillemets, travail ?
Pas très très bien. Le problème, c'est vraiment le manque de temps. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 ans et demi, j'avais de la chance, j'étais étudiante. Donc ça, c'était vraiment la belle vie. J'allais en amphi, je prenais pas mon cours comme les autres, j'écrivais à la place. Je me forçais à aller dans des cours chiants, comme ça j'étais sûre que pendant 4 heures, j'étais bloquée, j'avais rien d'autre à faire. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. Parce qu'en plus, je suis dans un bureau très pervers où... qui est vite très derrière moi et j'ai mon boss dans le dos. Donc c'est dur. Là, il n'y a aucun moyen de gruger. Je suis vraiment obligée de travailler la journée. Et c'est vrai que le soir, je n'ai pas forcément envie de rouvrir mon ordinateur et de réécrire. J'ai vraiment l'impression de retourner au taf. Donc ça m'a obligée à changer un petit peu de technique d'écriture déjà maintenant. Du coup, je suis obligée de repasser par papier. Je repasse par papier parce que j'ai l'impression comme ça de faire une cassure. Le problème, c'est que vous imaginez bien, écrire à la main, c'est quand même pas hyper rapide. Voilà, donc je perds beaucoup de temps. Alors déjà que je ne suis pas une grande rapide à la base, ça fait un petit combo. Mais voilà,
Entre nous, le papier, c'est parce que ton patron voit l'écran mais ne voit pas la feuille devant toi.
Et voilà, je suis démasquée. Exactement.
Et Georgia, c'est une activité professionnelle, l'écriture, ou bien tu fais quelque chose à côté ?
Non, maintenant, c'est mon activité professionnelle. J'ai la chance de pouvoir me consacrer qu'à ça. Alors, je me discipline quand même. Je ne vais pas faire la fête. J'essaie d'avoir à peu près des heures, pas de bureau, mais enfin, de me lever quand même relativement tôt et puis de mettre à l'écriture 7-8 heures. Et je me force à avoir à peu près un quota de pages. Alors bon, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, des fois j'en fais plus, c'est génial. Mais j'ai une certaine discipline parce que sinon, enfin, le métier d'auteur, c'est vraiment seul face à son écran ou sa page. Enfin voilà. Et si on se discipline pas, y a un moment où on se dit « Ah bah oui, mais aujourd'hui, je suis pas inspirée, alors tant pis. » Mais en même temps, c'est aussi bien de se poser et de se dire « Oui, mais alors pourquoi aujourd'hui, je suis pas inspirée ? Qu'est-ce qui va pas avant qui fait que je peux pas avancer ?» Enfin voilà, donc la réflexion, c'est aussi important de prendre le temps et voilà.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir de passer le pas à un certain moment, il a fallu prendre une décision. Là, maintenant, je deviens auteur. C'était facile à prendre, cette décision ?
Non, pas vraiment. En fait, c'est à la fin de mes études que j'ai pu me consacrer. Enfin, pas vraiment me consacrer, parce que je donnais des cours de danse orientale pendant la durée de mes études. Donc, j'ai dû continuer une fois que j'ai obtenu mon diplôme, parce que je m'étais engagée. C'était surtout le soir, donc... Ça me laissait quand même toute la journée pour travailler. Et puis, dès que j'ai pu, j'ai arrêté de donner des cours et je me suis mise à l'écriture pleinement. Mais c'est parce que quand j'ai commencé à écrire donc le premier tome des Larmes Rouges, ben c'est devenu comme une drogue. Je ne pouvais plus m'en passer et je savais que c'était ce que je voulais faire. Et que, quoi qu'il arrive, même si ça ne marchait pas tout de suite, fallait que je persévère, que j'y croie, et voilà.
Et sans être totalement indiscret, ça fonctionne, ça marche, tu vis.
Oui, là maintenant, oui. Alors bon, c'est pas, on ne vit pas dans l'opulence, surtout quand on commence. Hein, mais oui, oui.
Tu ne regrettes pas donc ?
Ah non, je ne regrette rien du tout, au contraire.
Cindy, tu as un métier à côté aussi. Tu es traductrice, je crois, non ?
Oui, exactement. Et je me retrouve totalement dans ce que dit Stéphane sur les navettes de train belges. Dieu sait qu'on peut y perdre du temps, donc du coup, autant le mettre à profit pour écrire. Oui, j'ai aussi une activité à côté, forcément. Comme disait Stéphane, quand on écrit son premier roman et qu'on est publié, c'est pas pour autant qu'on met une pancarte devant la maison et qu'on se dit « ça y est, on va se lancer, on va être auteur ». Pour autant, effectivement, on a des deadlines à respecter. On a, dans le cadre d'une trilogie ou d'une saga, forcément, on a aussi un contrat à passer avec l'éditeur qu'il faut respecter. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident de jongler avec une activité professionnelle et l'envie d'écrire. C'est pour ça qu'il faut aussi s'organiser. Maintenant, je comprends tout à fait aussi le choix de Georgia pour se lancer totalement dans l'écriture. Je pense, j'ai plusieurs amis qui ont fait ce choix, et voilà, chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui compte, effectivement, c'est l'organisation, et bien sûr, avoir toujours l'envie de pouvoir partager ses histoires.
Vous avez choisi, pour la plupart d'entre vous, de développer des grands univers. Je parle surtout ici à ma gauche, enfin, toi aussi, avec des trilogies. Est-ce que pour pouvoir s'y retrouver quand on écrit dans ces univers, vous structurez complètement cet univers ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez derrière vous, dans votre bureau, ce que les flics dans les séries américaines ont dans leur bureau aussi ? C'est un grand tableau avec qui est qui, où se passent les choses, etc. Ou tout se passe dans votre tête, Stéphane ?
Alors moi, j'ai investi toute mon avance éditoriale et un emprunt de 20 000 euros sur mes droits d'auteur à venir pour acheter un grand tableau tactile comme ça sur lequel j'ai tous les plans, la carte du monde, la mythologie, etc.
Non, je vois ta compagne qui pâle.
Non, j'ai énormément de notes. J'ai plusieurs centaines, sans doute, de pages de notes sur mon univers. J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai quand même énormément de choses qui sont tout simplement dans ma mémoire. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'elle est très encombrée et qu'il y a des choses qui me paraissent plus anodines parfois, comme ramener le lait ou qui passent souvent à la trappe. Ma compagne sait que je suis très, très distrait par moments et que parfois, il y a des choses qu'elle me dit que j'oublie. C'est parce que la mémoire RAM est saturée, parce qu'il y a des personnages qui sont dans un personnage. Ça prend quand même énormément d'octets dans un cerveau, je crois. Parce qu'il y a tellement de dimension et à porter un univers, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement prenant et qui est vraiment hébergé par le cerveau. S'endormir aussi avec en tête une question d'écriture ou un problème d'écriture, il va arriver à maturité pendant la nuit, tout ça, ça prend pas mal d'espace disponible. Et actuellement, par rapport à mon vrai boulot, je pense que mon plus gros problème, c'est surtout dans le vrai boulot qui se ressent, mais ça va, je gère. C'est même pas d'avoir le conflit de temps, parce que je n'écris pas au boulot, je n'essaye même pas. Je suis dans une fonction où je peux être dérangé toutes les 5 minutes et il n'y a rien de pire que de commencer à tenir le bon filon et d'être dérangé 3 fois. Ça, c'est vraiment juste pour perdre le filon définitivement. Donc, je n'essaye même pas d'écrire au boulot. Arranger les mails pour le salon, etc., ça peut être. Mais le vrai problème, c'est de me concentrer et d'arriver à garder aussi en tête à la fois toute la richesse de mon univers et la complexité professionnelle. Et je me rends compte que depuis que j'ai intensifié l'écriture, parfois j'ai des contacts au téléphone et j'essaie de cacher pendant un certain temps que je ne sais plus qui c'est, que je farfouille dans mes notes, dans ma base de données, c'était qui encore lui ? Alors qu'avant, ça va, je situais tous les partenaires. Donc c'est vraiment une question d'espace mental disponible qui est aussi assez difficile, quoi.
Je vais te conseiller une extension, t'inquiète, j'ai de bonnes adresses là-dessus. Tout à fait. Mais en fait, moi, je dois dire que je suis pas vraiment une architecte qui va tout déterminer à l'avance. D'ailleurs, mon éditrice s'en est bien rendu compte quand je lui ai rendu le tome 2, qui m'a dit « il est très bien, mais en fait, il ne correspond pas vraiment au synopsis que tu m'avais donné avant. » Non, en effet. Mais bon, ça va, elle a aimé quand même, c'est bon. Donc moi, je suis plus en fait du genre jardinier. Je plante, je fais dans un bon melting pot, comme on dirait en bruxellois. Et j'attends de voir ce qui va en jaillir, ce qui va en grandir. Généralement, ça marche bien quand même. Chacun sa méthode.
Georgia, des structures ?
Oui. J'ai beaucoup de notes. Hein, et puis, je fais surtout des fiches personnages avec, par exemple, des trucs complètement anodins, mais la couleur des yeux ou ce genre de choses. Pour pouvoir toujours bien retrouver et retomber sur mes pieds des fiches de lieux, ce genre de choses. Et puis j'écris aussi évidemment des synopsis à l'avance, mais effectivement ils connaissent aussi beaucoup d'évolutions entre temps, parce que nécessairement il y a d'autres idées qui viennent entre temps et on se dit ah mais oui, en fait c'est vachement mieux comme ça, et du coup ça change plein de choses. Mais bon, c'est ce qui est bien aussi, un petit peu l'inattendu. Voilà.
Camille, pour le moment, il n'y a pas de véritable saga, donc peut-être moins structurant. Mais le monde de dresseur de fantômes était déjà bien dans ta tête, ou bien tu t'es laissé aller dès le début de l'écriture ?
Non. Moi, pour le coup, les scénarios, les plans, etc., ça ne marche pas du tout avec moi. Donc j'ai une idée très précise du début, une idée très précise de la fin. Au milieu, c'est le bordel. Donc ça, il peut y avoir des moments un peu difficiles quand on ne sait plus du tout où on va. Mais moi, je préfère me laisser vraiment aller. J'ai essayé, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire des plans, que c'était comme ça que normalement un écrivain fonctionnait. Donc j'ai tenté le coup, et en fait, je me suis aperçue d'un truc, c'est qu'une fois que mon histoire, je l'avais détaillée sur un plan de quelque part, j'avais plus envie de l'écrire, j'avais l'impression que le boulot était déjà fait. Mais c'est pas très intéressant pour le lecteur, un plan de 3 pages, donc ça pouvait pas suffire, et du coup, j'ai complètement abandonné cette idée. Je préfère y aller comme ça. Alors de temps en temps, ça peut du coup complètement foirer, parce qu'on peut se retrouver arrêté au milieu d'un bouquin sans l'idée qui va ensuite, et du coup c'est une belle perte de temps, puisque on a raté. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques années d'écriture, ça arrive quand même de moins en moins, donc voilà.
On parle parfois d'inspiration pour les écrivains. On devrait parler plutôt de sueur, je suppose. Cindy, le travail d'écrivain, c'est un travail dur, ardu, compliqué.
C'est pas, tu te mets pas comme ça à ta machine, à ton ordinateur, et tout vient en un flot continu de belles paroles.
J'aimerais bien. Non, non, mais c'est vrai que il faut, forcément, il faut beaucoup de travail. La sueur du sang et des larmes, ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faut pas mal d'heures devant son écran, occupé à voir si, bon, comme disait Camille aussi, bon, est-ce que ça, ça va marcher? Ou alors, est-ce que je prends la tangente? Est-ce que je prends une route tout à fait inattendue, mais qui quand même marche bien? Bon, voilà, on fait des choix, on se trompe, on revient en arrière, et parfois, on a le petit déclic, et ça va tout seul. Parfois, j'ai pas dit tout le temps.
Inspiration ou travail?
Mais les deux, hein. Il y a des passages qui vont sortir d'une traite, 3 ou 4 pages. Avec moi, c'est souvent quand il s'agit de dialogue ou d'éléments de mise en place du monde, par exemple, qui sont vraiment des choses très, très, très claires dans ma tête. À côté de ça, il y a des passages qui demandent énormément de retravail. On va commencer... Bon, chez moi, les atmosphères fantastiques sont très importantes et très travaillées. Ce type de passage, je peux commencer à l'écrire sans trop savoir comment je vais le mener et puis le retravailler beaucoup jusqu'à arriver à produire l'effet que je veux. Donc, il y a vraiment une part des deux, mais de façon générale, j'ai l'impression que plus le plan est fait, à un moment, plus c'est facile d'écrire. Et que ça n'empêche pas de garder justement une part de créativité encore dans le processus.
Mais tes plans sont déjà assez structurés et assez longs.
Quand j'ai commencé Manèche, au début, je partais un peu à l'aventure. Et puis à un moment, j'ai dû intercaler les deux niveaux de l'intrigue de Manèche. Et là, il fallait vraiment que je passe par un plan parce que, bon, ça tient aussi à la structure du bouquin, mais il y a deux récits qui se croisent et qui à un moment se rejoignent. Et il fallait vraiment arriver à amener les infos dans le bon ordre. Donc, il est arrivé que j'ai des fichiers, de longs fichiers d'argumentaires avec tel chapitre avant tel autre ou pas, avec les pour, les contre, tel personnage de tel camp ou pas, les pour, les contre, les pour en turquoise et les contre en rouge. Et puis, je mesure les arguments, j'essaie d'objectiver.
Et puis, après, ton relecteur te dit non, ça ne fonctionne pas.
Je ne leur inflige pas les fichiers de réflexion en plus. Je crois qu'ils me tueraient.
Il est moins dit. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, c'est peut-être le temps de donner la parole à la salle. Alors, une question pour un écrivain en herbe qui a envie de se propulser sur le devant de l'édition. Il y a quelqu'un, oui? Une question, oui, oui. Donc, la dame demande si, de temps en temps, les écrivains ici présents sont bloqués, soit parce que leur travail auxiliaire l'exige, soit parce qu'ils n'ont plus d'idées, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et est-ce que vous passez par-dessus ce blocage, ou est-ce que ce blocage vous empêche de continuer cette partie de l'histoire? Georgia?
Alors, oui, moi, je suis dans ce cas-là parce que, en fait, j'ai imaginé la trame des larmes rouges et puis j'ai écrit les 30 premières pages il y a très longtemps. C'était à une période où j'étais encore en études. Et puis, c'était un peu compliqué en parallèle des études parce que c'était assez prenant quand même. Et j'ai rencontré mon mari à ce moment-là, donc j'ai tout arrêté. Et j'ai attendu, en fait, d'obtenir mon diplôme. Donc 3 ans plus tard, pour reprendre ces 30 premières pages et ma trame assez grossière à l'époque, hein, pour m'y remettre. Et à ce moment-là, c'est reparti tout seul et après, j'ai plus arrêté, quoi. Voilà.
Camille, des blocages?
Oui, et évidemment, ça arrive de temps en temps. En fait, plus on laisse un texte reposer... plus ça peut être compliqué de s'y remettre. Moi, j'ai vraiment du mal. C'est comme s'il y avait un fil en fait, qui se faisait de plus en plus fin. Et du coup, il faut beaucoup de temps, une fois qu'on a laissé tomber pendant un certain temps, pour reprendre un peu le tempo de l'histoire, pour reprendre les personnages, etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que même si ça me saoulait, il fallait que je me force à continuer, rien que pour ne pas perdre ce petit truc. C'est pas facile. En général, le résultat n'est pas terrible. Les pages, je les garde jamais. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer. Alors après, si c'est trop mauvais, effectivement, il y a un moment où il faut se résoudre à jeter le truc, quoi. Mais ça m'arrive heureusement moins souvent maintenant.
Cindy ?
Donc oui, les blocages, bah, je connais aussi. Maintenant, ça peut donner aussi l'opportunité de voir avec du recul ce qu'on a produit quelques temps auparavant et de pouvoir se dire, tiens, il y a un truc, je vais pouvoir l'exploiter, mais peut-être d'une autre manière, soit en continuant le projet, soit en réécrivant, voilà. Ça m'est déjà arrivé, et aussi sur un projet actuel, puisque je me suis dit, bon, ben, voilà, en fait, je vais l'exploiter d'une toute autre manière, et je vais le réécrire. J'aime bien la réécriture, je dois dire.
Mais j'ai connu aussi des périodes de saturation où je n'arrivais plus à dénouer les fils parce que j'avais trop le nez dessus. Je pense que parfois s'arrêter, ça fait du bien. Moi, j'ai eu des grandes périodes d'arrêt dans le processus de manèche, d'écriture de manèche. Je pense qu'ici, je peux moins me le permettre, mais sans doute qu'à un moment, je me prendrai un mois de vacances où je décrocherai complètement. Mais je sais qu'un texte, à un moment, quand on n'en voit plus le plaisir... Parfois, en le redécouvrant après, en le relisant, je trouve au contraire qu'il se remet à chatoyer, qu'on en retrouve la saveur, qu'on revoit plus de fils qui se croisent, qu'on avait fini par ne plus voir qu'une sorte de motif d'ensemble à distance. Et ça peut vraiment être salutaire de s'arrêter, de reprendre et de le redécouvrir.
Dernière question. Si vous aviez un petit conseil à donner à des auteurs débutants et qui aimeraient bien se faire éditer, Georgia ?
La patience parce que les éditeurs mettent beaucoup de temps, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de manuscrits à étudier et il faut être très patient pour obtenir une réponse, mais il faut surtout pas renoncer, il faut pas hésiter à relancer, mais pas harceler parce que ça marche pas les éditeurs n'aiment pas, mais il faut pas hésiter à relancer régulièrement parce que bah, justement ils ont énormément de travail, donc voilà. Et puis si vous avez l'envie, il faut y croire, vraiment, voilà.
Alors moi, mon conseil, c'est trouvez-vous un bon lecteur, quelqu'un qui saura vraiment vous dire le moment où c'est nul, ce qu'il faut changer, etc. Ça pique un petit peu au début, mais vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est quand même très très compliqué, de, une fois qu'on sort d'une période d'écriture de quelques mois, de pouvoir se replonger et d'être objectif avec son propre texte. Et c'est là que vraiment votre lecteur va avoir une importance. Alors il faut avoir absolument confiance en lui, et il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'au moment où on se prend une critique dans la gueule, c'est pas nous qui sommes critiqués en tant que tels, c'est juste le texte, et c'est fait pour nous aider. Et ça, je pense que si on comprend pas, ça va être compliqué après. Donc vraiment, pour moi, c'est la première étape.
On a beaucoup parlé de travail, et à juste titre, de patience. Moi, je vous dirais aussi, soyez audacieux. Si vous avez porté votre projet jusqu'au bout, si vous avez investi de l'énergie, du temps, aussi pas mal de crises de larmes, surtout quand on se tape les premiers retours des lecteurs, si vous avez subi tout ça et que vous croyez toujours à votre projet, alors soyez audacieux, ne le sous-estimez pas et surtout croyez-y. Voilà.
Alors le premier roman que vous allez essayer d'écrire ne sera peut-être pas le premier qui sera publié. Peut-être qu'à un moment vous allez caler sur un premier essai que vous n'aurez plus le courage de reprendre, mais que vous aurez l'envie de quelque chose d'autre qui va passer, vous ferez un deuxième essai avec un nouveau scénario. Celui-là sera peut-être plus mûr et vous permettra peut-être d'aller au bout. Moi, j'ai eu des premiers essais de romans qui se sont jamais, où j'ai jamais fini, j'ai jamais concrétisé avant d'attaquer celui-là. Autre conseil important, ciblez bien votre éditeur. Les éditeurs sont surchargés, parce qu'ils sont surchargés de travail, mais ils sont surtout surchargés de manuscrits qui ne correspondent pas à leur ligne éditoriale, ce qui fait perdre du temps à tout le monde et qui vous fait perdre surtout un manuscrit à vous. Donc regardez ce que sortent les éditeurs, regardez quel genre ils font, et vous allez vite trouver. Moi, je parlais de mes 48 heures avant d'être signé, mais c'est parce que je savais que Les Moutons Électriques étaient exactement l'éditeur qui correspondait à ce que je faisais. Je l'avais envoyé à Bragelonne. Je ne suis pas du tout sûr qu'il aurait été retenu.
Merci pour ces conseils. Merci à Georgia, Camille, Cindy et Stéphane. Merci à vous pour votre attention. Bonne journée.